tous, bienvenue dans Les Affranchis, bienvenue au studio 106 de la Maison de la Radio. Et oui, toute l'équipe est avec nous aujourd'hui pour accueillir celui qui est sans doute l'un des écrivains les plus jouisseurs de la littérature française. Avec nous, Guillemette Odicino. Bonjour Guillemette.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Laurent Bachet.
Bonjour à tous.
Bonjour Laurent. Et nous avons également, c'est un honneur qu'il nous fait, Marc Lambron, et oui, qui a fait un petit détour par le studio des Affranchis ce matin. Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Vous viendrez nous voir comme ça, hein, de temps en temps.
Volontiers.
Vous êtes le bienvenu. Et Franck Gélibert est au piano aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour Franck. Et nous recevons, comme je le disais, donc cet écrivain, jouisseur. Avec lui, c'est vrai que la littérature prend parfois les couleurs de la Dolce Vita, et en tout cas celle de l'hédonisme et du bonheur de vivre. Il fascine, mais il exagère tout autant. C'est vrai qu'il a ses détracteurs. Et la sortie de chacun de ses livres fait souvent figure d'événement. On a donc du plaisir à parler avec lui. Il est notre invité. Philippe Solers est aujourd'hui avec nous pour la sortie de L'Éclaircie chez Gallimard. Philippe Solers est notre invité, et puis aux alentours de 11h30, nous recevrons Michel Fitoussi, qui est un peu une ancienne, qui revient à la maison. Michel Fitoussi, si vous avez été attentif, qui faisait partie de l'équipe du Fou du Roi il y a quelques temps, et qui va venir nous parler de théâtre et des femmes, les femmes au théâtre. Bonjour Philippe Solers, comment
bonjour.
Allez-vous?
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir.
Et moi donc.
On va donc parler de votre...
De vous voir.
Ben merci. On va parler de votre livre, L'Éclaircie, qui vient de sortir chez Gallimard et qui fait un peu figure à chaque fois. C'est vrai que vous sortez un bouquin, c'est toujours un peu un événement dans le microcosme littéraire. Alors, est-ce que là, le livre fait l'unanimité, oui ou non? On va en parler tous ensemble.
Le livre, c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur.
Oui.
Elle disparaît. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'enfance entre un garçon et une fille? Autrement dit, est-ce que tout n'est pas là dans les 10 ou 12 années de l'enfant?
Surtout l'enfant, quand on les passe sous un cèdre qui vous permet de regarder le ciel et d'avoir cette fameuse éclaircie qui donne son titre à l'ouvrage. Et comme souvent dans vos livres, s'entremêlent à travers cette histoire d'amour fraternel, des images de peintres. Et effectivement, parcourt l'histoire de votre histoire avec le regard de Picasso, de Matisse,
Ce qui s'est imposé là, c'est que brusquement, je me suis rendu compte, en regardant le portrait de Berthe Morisot par Manet, qu'il ressemblait beaucoup à une de mes sœurs, qui d'ailleurs a disparu il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai été attiré par la question de savoir qui rend le mieux l'existence profonde du corps féminin. Il y a deux peintres, à mon avis, qui sont vraiment indépassables de ce point de vue. Je ne parle pas de l'Antiquité, mais des peintres qui sont classiques. C'est Manet et Picasso. Et Picasso se réfère tout le temps à Manet. Pourquoi est-ce que quand Manet a peint Berthe Morisot, Le Déjeuner sur l'herbe, l'Olympia, présence énorme. Ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des scènes de théâtre, de films. C'est vraiment une existence tout à fait particulière qui vous regarde, qui vous dévisage. Et le public l'a très bien compris à l'époque. Le public bourgeois, petit bourgeois, a eu horreur de ça. Et s'est rassemblé pour cracher et vomir sur ce tableau.
Alors, si vous permettez, l'une des questions quand même qu'on se pose une fois qu'on a refermé le livre, comme je l'ai fait, c'est qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux, qu'est-ce qui est autobiographique ou non? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un roman ou d'une histoire très très personnelle? On y reviendra dans un petit instant, mais je voudrais quand même me tourner vers mes charmants collègues. Il y a eu débat au bureau avec Guillemette, par exemple, Guillemette Odicino, qui a le malheur de travailler à Télérama, avec Guillemette, plus sérieusement.
Je sais, c'est ma croix.
On n'était pas d'accord, je disais, mais est-ce que ça ne ressemble pas à des précédents livres de Philippe Solers, où c'est vrai qu'on parle toujours de peinture pour nous parler d'amour?
Évidemment, si c'est du Solers, alors c'est pas
mais
la peine qu'il en
Guillemette fasse. Mais Guillemette a eu cette phrase, Guillemette a eu une bonne réaction quand je lui ai dit ça.
Ben oui, j'ai dit que vous écriviez toujours le même livre, et tant mieux, parce que c'est le fait des grands écrivains.
Aha, oui.
En fait, je crois que vous écrivez un roman géant, et que chacun de vos romans en est un chapitre, une partie, qu'en fait, c'est même pas un roman que vous écrivez. En fait, je pense que le livre, c'est vous. Vous écrivez Philippe Solers. Alors, et vous convoquez pour ça, de très grands noms. Et là avant, enfin, il y a eu Stendhal, il y a eu beaucoup de rencontres avec d'autres génies dans vos livres. Là, c'est effectivement Picasso et Manet. Donc du coup, au bout d'un moment, votre livre, en fait, il ne se lit plus, il se regarde comme une toile, ou il s'écoute éventuellement, comme on peut écouter du Mozart. C'est une digression, c'est cubiste. Alors où on est dedans, et à ce moment-là, on tombe dans la toile. Et moi, je suis tombée dedans.
Vous êtes
effectivement
totalement emballée.
On ne sait pas le regarder. On
et
ne
votre
sait pas
voisin,
le lire.
Voilà. Et votre voisin, Marc Lambron, est-ce que vous avez aimé L'Éclaircie de Philippe Solers?
Bien sûr, j'ai vu l'éclairci. Je suis d'accord avec cette idée que Solers n'écrirait au fond qu'un seul livre et que chacun de ses romans serait comme un fragment, serait comme une partie, serait comme d'un grand livre mallarméen. Et ça fait 50 ans que ça dure. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles certains peuvent s'impatienter, parce qu'un écrivain qui tient la route, qui tient le coup, bon, ça s'appelle un écrivain tout simplement, et peut-être même un grand écrivain. Bon, alors, c'est vrai que chaque roman de Solers, qu'est-ce que c'est? C'est comme une sonate, c'est comme une éclaircie, c'est le titre de celui-là, c'est comme une chronique, c'est de la satire, c'est un poème. Donc on retrouve toutes ces couleurs dans ce livre-là. Ce qui m'amuse, c'est que Philippe Solers place le livre sous le signe de l'inceste, comme un autre de ses livres qui s'appelle Les Folies Françaises.
Oui, c'est pas le premier.
Mais moi, je l'ai lu avec une autre entrée. Je crois qu'il y a une autre entrée, si on cherche...
Folies Françaises, c'est père-fille.
C'est père-fille, et là, c'est sœur-frère.
Là, c'est frère-sœur.
Absolument. Mais il y a un autre conducteur, si on cherche à tout prix la story. Pour moi, le livre commence vraiment avec l'arrivée à Paris en février 2010, pour être précis, du manuscrit de l'histoire de ma vie de Giacomo Casanova, qui, comme vous savez, a été acheté par un donateur anonyme qui l'a confié à la Bibliothèque nationale de France. Et là, le narrateur, qui ressemble à Solers, mais qui n'est pas Solers, rencontre une grande bourgeoise intelligente, dit-il.
Ça existe. Dit-il aussi.
Apparemment, ça existe.
C'est rare, mais ça existe encore.
Et donc, une liaison va se nouer entre ces deux caractères, entre ces deux personnages, clandestines, comme il s'y est, dans le 7e arrondissement de Paris, peut-être. C'est peut-être mieux qu'ailleurs, je ne sais pas.
Et c'est là que
le roman démarre.
Voilà, et on se demande toujours
faux romans de Solers reposent là-dessus. Quand il parlait de Stendhal, c'était aussi par rapport à une histoire d'amour à Venise avec une
femme. La descendante.
Donc en fait, à chaque fois, il y a une femme et l'art. Voilà.
Laurent Bachet, oui, tout le monde est plutôt dithyrambique.
J'ai l'impression qu'il y a une sidération pour Manet dans ce livre. C'est-à-dire que justement, le lien avec Stendhal, c'est que j'ai l'impression que vous avez été frappé par le syndrome de Stendhal en voyant les œuvres de Manet. Et ce qui est assez surprenant, c'est que le syndrome de Stendhal, en général, frappe les femmes.
Je ne suis pas sûr du tout, parce que Manet a eu très peu d'admirateurs, et à ma connaissance, pas d'admiratrices de sa peinture. En revanche, Manet a une vie extrêmement bizarre. Il était sur les boulevards de Paris, cherchant ses modèles qu'il emmenait dans son atelier. Il faisait rire, il était très très beau. Il faut regarder sa photo par Carja, c'est un très très bel homme. Il n'a pas l'air d'un artiste du tout.
Hein, on a qu'un matière assez aristocratique.
Il n'a pas l'air d'un artiste du tout.
Il était propre.
Il était propre, délicat, et surtout, il les faisait rire.
Il était bon.
Donc, elle ne voyait aucun inconvénient à venir dans son atelier et à se laisser parler. Alors là, il y a des tableaux magnifiques. Et les femmes de Manet, c'est Berthe Morisot, sa belle-sœur. C'est Mary Laurent, qui a été la maîtresse de Mallarmé, qui n'en voulait pas me voir. Bon, c'est Victorine Meurant, l'admirable Victorine Meurant, que vous voyez à la fois au premier plan du déjeuner sur l'herbe. Qu'est-ce que signifie ces tableaux? Qu'est-ce qui se passe dans ces tableaux? Alors, il y a un type qui s'en est soucié, c'est Picasso. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte? Et moi, je vais essayer de reprendre ça, de le raconter autrement avec mon énergie espagnole. Alors, vous savez que les femmes de Picasso, là aussi, ça défile. Autrement dit, la question est la suivante. Est-ce que les femmes sont vues par les peintres ou pas? Et ce ne sont pas des images de cinéma, ce ne sont pas des photographies. C'est de la peinture. La peinture, c'est le coup de pinceau qui pénètre à l'intérieur de l'être humain.
Et est-ce qu'un homme comme vous peut défaillir à la vue d'un tableau?
Défaillir, non, monsieur, parce que ça voudrait dire que ça porte atteinte à mon intégrité. En revanche, m'exalter, oui, parce que, par exemple, le narrateur, à un moment donné, obtient d'être là, tout seul, avec son ami, devant le déjeuner sur l'herbe. Donc, ils sont tous les deux là pendant une heure. Pour en revenir très vite à ce que disait Marc, il est vrai que l'arrivée du manuscrit de Casanova à Paris. Alors voilà un élément réel. J'étais là, moi, qui vous parle. J'étais donc là, il y avait très peu de personnes, 50. Ce qui était fascinant, pour la première fois, ce manuscrit écrit en français. C'est du très très beau français. Le manuscrit était là, sous vitrine. J'ai assisté à ça. Les caméramans, les photographes se pressaient et photographiaient l'arrivée de ce manuscrit légendaire, 2 siècles pour arriver enfin en France, dans la langue française. Ils étaient là, ils étaient... Et puis, il y avait le ministre, et puis sur la table, il y avait le chèque. le chèque anonyme, peut-être, du personnage que j'invente par la suite. 7,5 millions d'euros.
7,5 millions d'euros.
Voilà. Il y avait d'un côté l'argent, de l'autre, les images du manuscrit. Mais le manuscrit dit quoi ? C'est quoi ? J'ai été obligé de faire remarquer aux caméramans et aux photographes qu'il était écrit en français. Ils ne s'en rendaient pas compte. Donc c'était un moment extraordinairement émouvant. Palais Royal Diderot qui se promène dans les jardins. Mes pensées, ce sont mes catins, comme il a écrit, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Et il y avait tout à coup une émotion telle que je crois avoir été le seul présent à la ressentir à ce point. Sauf que le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, saisi d'une brusque hallucination, il y avait le descendant des Allemands qui a possédé ce manuscrit, qui l'ont enfin rendu à la France avec de l'argent, et il y avait le chèque, et le ministre, saisi d'une brusque hallucination, dit « Nous avons ici le petit-fils du petit-fils de Brockhaus, l'Allemand, qui nous apporte ce manuscrit à Paris. » Et puis, là, je vois qu'est Soler, ce qui est sans doute, sans aucun doute, le petit-fils du petit-fils du petit-fils de Casanova. Écoutez, il n'a pas publié ce
Vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui avez les hallucinations, Philippe Soler?
Mais enfin, je ne sais pas. En tout cas, il a été saisi
d'une
hallucination intéressante.
On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il paraît que vous êtes absolument incollable sur la vie de Casanova. On a plein de questions à vous poser sur Casanova. Je vais essayer de vous coincer, on va voir. Je sais pas, c'est pas
être facile. Oh, coincez-moi.
Oui, voilà.
Pas mal cette émission. Je suis coincé par Zaza.
Il trouverait ça délicieux. La parole à Jean-Jacques Bagné, notre Casanova à nous. Salut Jean-Jacques, bonne année.
Ce ne sera pas le sujet de mon papier, mais j'ai beaucoup aimé l'éclaircie, comme j'avais beaucoup aimé Trésor d'amour.
Ben c'est très gentil, ça me touche.
Merci, voilà. Bon, mais bref, bonjour.
Bonjour.
Ça y est, Noël est fini. Noël est avant tout une grande fête familiale. C'est le plaisir de se réunir autour des enfants. Oui, bien sûr, mais ce matin, ça y est, c'est fait. Enfin, Noël est passé. Et ce matin, les enfants sont retournés à l'école. Ce matin, ouf, ouf, ouf. Jeudi, ouf. Ici, les parents, à vous, les instits. Un mardi matin, quand même. Hein ? Et qu'est-ce qu'on fait des mômes le lundi ? Hein ? Pourquoi ils n'ont pas recommencé hier ? Bref, un mardi, ce matin, papa a son texte à écrire pour France Inter, faut pas le chercher. Et ce matin, les tartines ont été vite expédiées. Noël, tu parles, j'ai tout perdu. Je les ai pourris de cadeaux et j'ai perdu. Au Monopoly, j'ai perdu. Au Mastermind, j'ai perdu. Au Cochon qui rit, j'ai perdu 3 fois de suite. 2 jours de plus et je me flinguais. Jeudi dernier, le professeur Moutarde a commencé à me taper sur les nerfs dans le salon. Vendredi, j'ai commencé à déshabiller puis à rhabiller des Barbies nerveusement. Et ça, c'est un signe alarmant. 2 jours de plus et je me flinguais avec le pistolet de Zorro que j'ai offert au petit dernier. Mais heureusement, les pistolets des enfants ne tirent pas des vraies balles. Ouais. Tu imagines le carnage.
C'est un truc à inventer, ça, pourtant.
Je suis bien d'accord. Ouais. Tu imagines le carnage de sang et de môme dans les cours de récréation. Remarque, au moins ce matin, j'aurais eu la paix. Un mardi matin. Mais non, les pistolets des enfants ne tirent pas des vraies balles. Souvent, ils n'en ont pas. On fait pan-pan et on fait semblant de mourir. J'ai fait du puzzle entre Noël et le premier de l'an. Le même puzzle, 23 fois de suite. On le recommence, papa ? Non, papa, il refait pas. Barrez-vous ! Et toi, Philippe, qu'est-ce qu'il t'a apporté, le Père Noël ? Je vais te dire un truc. Je dis ça pour que tu te sentes pas exclu de mon texte. Parce que tu es l'invité, mais en fait, je m'en fous pas mal de ce que tu as eu à Noël. Mais si ça te fait plaisir de le dire, eh ben, dis-le. Mais toi aussi, tu t'en fous pas mal de Noël, je sais. Tu as la déclaré dans Cosette. Ou dans Biba, je ne sais plus. Bref, on s'en fout tous les deux, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai eu. Le Père Noël m'a apporté 2 cadeaux. J'ai eu un premier cadeau, c'est le Père Noël de France Inter qui me l'a apporté. Il est marrant, le Père Noël de France Inter. Il arrive en scooter, vroom vroom, il sonne, il n'enlève pas son casque, il dit « Bonjour, on est bien au 30 ?»« Oui, c'est bien vous ?»« Oui. » « Tenez, et il s'en va, j'ai même pas vu son visage. » J'ouvre le livre de Pierre Solers. Oh oui, le livre de Philippe, pardon.
Pierre, c'est pas mal.
Je connais Pierre Solaire, c'est
Pierre
un autre
Solaire,
le livre de Philippe
Solaire. Ça fait PS, c'est pas la même chose que PHS. Ouais, bon,
l'éclaircie. Ça tombe bien, ça fait un lien avec Philippe Solaire, ce qui est l'invité de ce matin. Je me l'emballe dans du papier cadeau, j'écris pour papa et je le mets au pied du sapin. Et quand les enfants rentrent, ils s'écrient « Y a un cadeau au pied du sapin, c'est écrit pour papa !» Oui, c'est le Père Noël de France Inter, parce que papa a bien travaillé pour Isabelle Giordano. Elle est comment, Isabelle Giordano, papa? Elle est très belle. Elle est grande.
C'est vrai.
Elle a des grands yeux.
Oui.
Des grandes oreilles. Des grandes dents et elle mange les enfants. Mais non, elle est simplement très belle, mais elle n'est pas pour vous. Et je leur dis avec humour, c'est chasse gardée Daniel Morin. Et les enfants qui sont cruels et qui ont très peu d'humour me répondent, mais c'est normal papa, il est beaucoup plus drôle que toi. Ah, les salauds de mômes, ils me poignardent dans le dos, moi, leur propre père. Après Philippe, j'ai eu un deuxième cadeau de Noël. J'ai eu un truc que tu n'as jamais eu de ta vie, Philippe. Emballé dans un joli petit papier craft dans les tons violines. Un truc que tu n'as jamais eu de ta vie. Tu devines pas? Non? Le prix Goncourt. Alexis Génie, écrit dans un bistrot lyonnais. Du coup, eh ben, je me suis remis au Macon. Merci et bonne année à tout le monde.
Jean-Jacques Vanier, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. C'est vrai, bien vu. Le prix Goncourt, il ne l'a jamais eu.
Pas encore.
On vous a pas vu
j'en
trop
suis
sourire
malade.
Quand il a dit
je
ça.
Je n'ai pensé qu'à ça toute ma vie.
C'est vrai.
Et c'est vraiment l'échec le plus retentissant.
Oh, mais non,
je finis en raté, c'est clair.
Regardez, on vous fait un cadeau. Aujourd'hui, on n'a pas fait exprès, mais avec Marion Guilbeault qui vient de rentrer dans le studio.
Bonjour.
Notre programmatrice musicale. On vous a concocté une programmation qui ressemble à un de vos livres. C'est une programmation spéciale femme, puisqu'on va avoir une très belle femme tout à l'heure qui va nous proposer du Mozart. Et là, nous recevons Christine and the Queens.
Oui, Christine and the Queens. Alors, je vois bien qu'autour de la table, tout le monde se dit, mais elles sont où les Queens? Eh bien, les Queens, en fait, elles ne sont pas là. Elles ne sont jamais là avec Christine. C'est les marraines imaginaires d'Héloïse. Héloïse, c'est une jeune musicienne qui, au cours d'un voyage à Londres, a traîné dans les bars de travestis, a rencontré des drag queens. Et en fait, leur look, leur univers, ça l'a inspirée. Alors, au début, elle avait imaginé monter un groupe avec des musiciens déguisés en travestis pour l'accompagner sur scène. Et puis finalement, c'est toute seule, avec son ordi, qu'elle a écrit ses chansons, son projet. Elle s'est créé un personnage, la fameuse Christine. C'est un faux queen, c'est-à-dire c'est une femme qui essaie de se faire passer pour une travestie. Enfin bon, ça devient un peu compliqué.
C'est une mise en abîme. Là.
Voilà, une mise en abîme, la fille d'Amanda Lear et de Klaus Nomi, peut-être.
Wow.
Et comme la musique, c'est un terrain de jeu trop limité pour Christine... Elle suit aussi des études de théâtre à Nanterre et elle dessine. Et vous pouvez aller voir sur son site, il y a vraiment des très très belles choses.
Ah,
elle a été finaliste du concours des Un Rock Lab. Elle a gagné le concours Essai Faire Jeune Talent. Et elle va être à l'affiche du prochain festival Les Femmes S'en Mêlent au mois de mars dans toute la France. Voilà. Elle a sorti...
Nous mettez l'eau à la bouche.
J'essaye. Elle a sorti déjà un premier mini-album en 2011. Et là, il y a des nouvelles chansons qui sont réunies sous le titre de Mac Abbey, qui sont disponibles sur le net à partir du 16 janvier. Et Christine and the Queens chante Cripple.
I actually do enjoy being a cripple, 'cause I actually do.
Je pense que Philippe Sellers, hein, vu votre regard, vous allez écouter Christine and the Queens maintenant dans votre bureau. Vous allez pouvoir l'applaudir, elle sera en concert à Paris le 23 janvier prochain, pardon, à Brétigny ensuite le 4 février, le 8 mars à Massy et ensuite à Rennes le 10 mars. Vous avez apprécié.
C'est très rare de voir quelqu'un qui est vraiment heureuse et possédée par son chant. Je note qu'elle a une fossette sur la joue gauche pendant qu'elle chante, qu'elle fait jouer, et un grain de beauté au début du cou qui est au fond,
vous avez
ça se sent.
Tout ça.
Ah oui, elle est, c'est une sorcière évidente.
Oh, écoutez, vous allez.
Mais c'est positif.
Vous allez pouvoir l'applaudir à nouveau. Elle revient tout à l'heure après le flash de midi. Une reprise d'Alain Bachung, c'est ce qu'elle a préparé pour Les Affranchis. Et puisque nous parlons de scène, j'ai oublié de dire autant pour moi que Jean-Jacques Vanier a triomphé au Petit Montparnasse à Paris pendant tout le mois de décembre. Et donc, du coup, prolongation. Voilà, c'est le fest-off au Petit Montparnasse où on peut applaudir Jean-Jacques Vanier.
Bravo.
Et j'imagine que vos enfants seront peut-être dans la salle.
Ils viennent parfois. Et j'ai un petit scoop, si vous voulez.
Oui.
Parce qu'on parlait d'Amanda Dallaire.
Elle est venue.
Amanda Dallaire joue au théâtre à la Renaissance et elle a rencontré un mec. Et elle s'est tirée avec le mec. Elle a planté le théâtre. C'est trop rigolo.
C'est vrai. C'est pas une blague. Ah
c'est
bon.
Génial.
Et de qui s'agit-il?
On sait vrai. C'est vrai, c'est vrai.
C'est comme dans les romans de Sellers. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, Philippe Sellers, il y a un moment dans cette émission où on va vous demander vos papiers. Eh bien, c'est maintenant. C'est la carte d'identité avec Guillemette Odicino.
Votre nom, s'il vous plaît.
Mon nom d'état civil.
Évidemment.
Je parle à l'administration.
Absolument.
Je parle aux impôts.
Oh non, tout de même pas, vous faites pas ce coup-là. Dites-moi votre nom, Philippe.
Mon nom de famille est Joyau, avec un X.
C'est quand même super pour un homme aussi précieux.
C'est gênant.
C'est trop.
J'ai été persécuté à l'école tout le temps. Avec vraiment noyau, boyau, rananir. Alors, messieurs, ce joyau n'est pas une perle. Alors, joyau, vous ne brillez pas de tous vos feux aujourd'hui. C'était incessant. C'est effrayant. Voilà. J'ai caché ce joyau qui brillait trop.
Que nous ne saurions voir. La ville où vous êtes né est celle où vous aimeriez mourir.
L'endroit où j'aimerais.
Où vous êtes né d'abord.
Oui, Bordeaux.
Oui.
Mais je n'ai pas du tout, l'intention de mourir.
Vous voulez.
Il est immortel.
Absolument.
Né une fois.
Oui, né c'est fait. Ça, vous n'avez pas pu faire autrement. Mais si vous deviez choisir.
L'endroit de ma mort.
Oui.
Ah, c'est choisi. C'est dans un petit cimetière de l'île de Ré, à Ors-en-Ré, dans le quartier où j'ai le droit d'être enterré là, dans le quartier très bien tenu d'ailleurs. Des pilotes néo-zélandais et australiens qui se sont crachés sur l'île de Ré en 1942 pour sauver la France des nazis et qui n'ont pas été réclamés par leur famille en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ce sont des tombes très touchantes. 22 ans, mitrailleur, 21 ans, pilote, etc.
Et ça vous correspond bien, sur la fois des combattants et des solitaires.
J'aime assez qu'il m'ait sauvé, qu'il ait sauvé. Enfin, non seulement mon pays, mais oui, quand même. Ils ont gagné la guerre.
Votre première émotion érotique.
Ouh là là, ça se perd dans la nuit des temps. Je pense quand même que ma mère y est pour beaucoup.
Carrément.
D'accord. Ben oui, parce qu'elle était très jolie. J'entends aujourd'hui toujours des philosophes, des penseurs, des écrivains qui se plaignent d'avoir eu une mère un peu problématique, un peu je ne sais pas, enfin ce qui leur posait des soucis. Je sais pas. Et je suis désolé, je n'ai pas la photo là, mais enfin, ma mère était très, 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 très jolie. Et alors, j'appréciais sa peau, voilà. Ça m'a puissamment érotisé, oui.
Le vin qui vous fait croire en Dieu.
Le
vin qui vous fait croire en Dieu.
Non, écoutez, pas plus tard qu'avant-hier, c'était le Brancantnac que je vous recommande, qui est un Margaux de 2001, qui était une merveille, parce que c'est un vin avec lequel vous dormez tout à fait autrement. Là, le vin, je connais bien, c'est ma région. Vous connaissez un peu la région?
Oui, Margaux, tout à fait,
là,
absolument.
La Gironde, tout oui, ça, oui, oui. Les châteaux.
Mais c'est très beau ce que vous dites sur les vins, que les meilleurs, ce sont ceux, en fait, avec qui on dort bien,
mais oui,
qui, en fait, vous font du bien dans votre sommeil. Mais
bien,
quoi,
sûr,
c'est
bien sûr, ça vous débarrasse des élections, des programmes politiques, je ne sais pas, des réélections.
Le comble pour vous de la médiocrité.
Je ne suis pas...
Le prix Goncourt.
Non, laissons les pauvres Goncourt, ils font ce qu'ils peuvent, non. Médiocrité. Oh, vous vous rappelez la fin du film génial de Forman sur qui s'appelle Amadeus, ce Mozart.
Absolument.
C'est Salieri qui dit qu'il a assassiné Mozart, un curé absolument ahuri, et qui est dans un asile, et qui à la fin bénit les médiocres. Ça c'est le con, hein, parce que Mozart, il fallait le tuer, quoi. Voilà. Bon.
Donc
le comble de la médiocrité, c'est d'aimer la médiocrité.
Eh bien, voilà pour cette carte d'identité. Merci, Guimette. Laurent Bachet.
Oui, non, juste un appendice. Votre pseudonyme est dérivé de Solus et Ars, qui veut dire tout entier art, oui. Et vous habitez Ars-en-Ré.
Ben, écoutez, c'est comme
est-ce que c'est lacanien ou est-ce que vous l'avez décidé?
Lacan n'allait pas jusque-là.
Non.
Chercher des poux à Lacan.
Mais en tout cas, c'est comme ça. Solus, ah oui, deux L, hein, voilà, c'est ça. Mais
nous avons une passion commune pour Ars et Venise, l'île de Ré et Venise.
Ah ben, écoutez,
et
bienvenue.
Qu'est-ce qui relie
vous n'êtes pas là par hasard.
Non. Qu'est-ce qui relie ces deux îles, à votre avis?
L'eau,
c'est si un peu vous court.
C'est pas court, justement, parce que ce sont des paysages très, très plat. Si vous baladez dans la lagune de Venise, etc., vers Torcello ou ailleurs, vous êtes dans l'île de Ré, je peux vous montrer les moments où vous êtes quasiment dans le même paysage. C'est très rare, hein, c'est le contraire de la Bretagne avec toutes ces légendes, etc. Et sa laideur profonde.
Et Philippe Soler, j'avais envie de revenir sur votre ton quand vous avez parlé d'élections, de programmes politiques. Vous aviez l'air agacé. Est-ce que vous lisez les quotidiens? Est-ce que vous intéressez en ce moment à cette campagne qui
démarre? Je suis bourré d'informations, chère Isabelle.
Vous savez déjà pour qui vous voterez?
Oui, absolument. Mais je ne vous le dirai pas. Mais comme je suis journaliste, vous savez, j'écris dans le journal du dimanche tous les mois.
Oui.
Alors c'était hier, par exemple. Eh bien, je peux vous dire pour qui j'ai voté. J'ai voté pour le candidat chinois à la présidence française. Strauss-Kahn a été arrêté à New York dans une affaire confuse. Les Chinois, eux, l'ont invité à Pékin, c'est vrai. 45 minutes de conférence. Survol économique mondial, crise de l'euro,
monnaie
chinoise internationale. Donc,
mais pour vous, c'est une affaire confuse.
C'est clair que le Parti socialiste doit réviser sa copie, parce qu'Hollande est un peu... Il faut quitter la Corrèze, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, et voir quelle est la grande vedette qui s'impose absolument sur tous les plans intellectuellement. Il parle un anglais parfait, il va parler chinois dans deux mois, parce qu'il est très doué. Reprenez Strauss-Kahn et finissons cette comédie qui n'en finit plus.
Il manque peut-être le respect des femmes.
Alors justement, il est en train de... Je vous annonce, je suis bien renseigné, il est en train de suivre des cours de raffinement érotique accéléré en Chine, qui est nuit de Chine, nuit câline. D'ailleurs, toutes les escort girls chinoises qui l'ont accompagné et surveillé pendant son séjour ont toutes été choisies parmi les petites filles, ça c'est génial, les petites filles des jeunes filles qui venaient le samedi soir palper un peu Mao Tse-Tung, au pavillon des chrysanthèmes, dans la cité interdite. Il y a donc une filiation directe dans le raffinement.
Pourquoi
vous allez voir un
Strauss-Kahn
transformé, élégant, raffiné, ne bousculant
Philippe
plus les
femmes.
Écoutez, de Dodo la Saumure à la chinoise un
Philippe peu
raffinée, il y a un abîme.
Pourquoi vous le défendez, Strauss-Kahn ? Vous n'êtes pas ce type de séducteur, vous,
non,
me
semble. Possible que, il est possible que mon discours soit ironique.
Marc Lambron ?
Oui, je voulais demander à Philippe Soler ce que lui inspire le fait que notre président de la République déclare, on ne sait pas si c'est vrai, avoir lu Lolita de Nabokov récemment, alors que l'on dit de François Hollande, ancien élève de HEC, qu'il ne lit jamais de romans. Qu'est-ce que ça vous inspire pour l'année prochaine ?
Écoutez...
On ne sait pas ce qu'il en a pensé de Lolita Nabokov, votre président.
Oui, il paraît que Nicolas Sarkozy appelle Hollande, je trouve ça très savoureux, le petit.
comme Napoléon le petit chez Victor Hugo.
Écoutez, ce que les hommes politiques lisent, ou les femmes, j'y crois pas. Ils font des déclarations, etc. Mais si on les interroge, ils passent pas 30 secondes à l'oral. Hein. Donc, c'est pas là. Là, on a cherché le pauvre Sarkozy avec sa princesse de Clèves, à quoi ça sert, etc. Mais bon, évidemment qu'il n'a pas une tête à lire la princesse de Clèves. Mais Hollande non plus. Et Bayrou encore moins. Hein. Enfin, je ne sais plus, c'est Bayrou, c'est Peggy peut-être, enfin des choses, de la bonne pensée morale. Je vous signale qu'on est rentré dans une époque extraordinairement régressive, comme vous n'en seriez pas aperçu, qui va s'aggraver. C'est-à-dire, l'ordre moral va régner. Il y a des papiers incroyables.
Raison de plus pour manier l'ironie, comme vous le faites, Philippe Soler. On a convié 4 personnes aujourd'hui qui, elles aussi, aiment beaucoup l'ironie. Comme vous, ce sont les Chiches Capons. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont fait sensation à la Pépinière à Paris. Et puis là, en ce moment, ils sont en tournée un peu partout en France. Ils sont 4 drôles de gus qui sont dans la bande des affranchis. Voici les Chiches Capons. Bonjour à tous.
Bonsoir à tous. Bonsoir Philippe, bonsoir Isabelle, bonsoir toute l'équipe. Donc aujourd'hui, dans la grande lignée des arts forains, on voulait vous proposer une chronique extraordinaire. Et pour ce faire, je laisse la parole à Ricardo Judis.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience extraordinaire, incroyable, formidable. En effet, cet homme, ce petit homme qui est à côté de vous, a la particularité d'être ce qu'on appelle un médium. Il a le don de pouvoir lire à l'intérieur de votre cerveau. Il va s'approcher de vous tout doucement avec ses bras, voyez, et il va sentir ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Philippe Soler.
N'ayez pas peur.
Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous détendre, de ne pas bouger, ça peut être dangereux. Non, s'il vous plaît, ne rigolez pas.
S'il vous plaît, juste non. Un peu de concentration.
Je vais demander au public.
Je sens, en effet, non.
Vous sentez ? Donc ça je vais demander au public de faire le silence le plus total. Ouais. Patrick, cherche.
Ok, donc ça y est, c'est commencé. Est-ce qu'on a déjà accès aux pensées de Philippe Solers ?
Oui, mais on n'a pas encore la communication. Attends, Philippe. Cherche, Philippe.
C'est pas encore très clair. Est-ce que ça va être long ?
Ça peut être long, oui.
Ça peut être long. Bon, ok, donc très bien. Donc en attendant, Philippe Solers, j'avais une petite réflexion par rapport à votre actualité. Je me disais, vous sortez un livre qui s'appelle L'éclaircie.
Je vais vous aider un peu. Je pense intensément, en ce moment même, à un personnage très précis, religieux.
Ah, très d'accord. Bien. Donc, on n'y connaît rien en religion, donc on est prêts, on y trouve pas. Mais s'il vous plaît, par contre, je vais vous demander de ne pas parler pour le travail de la magie de la médium, de la médiation, de la médiodomie, d'accord ? Donc, par contre... Voilà. Pendant que monsieur se concentre, je voulais dire, monsieur Solers, vous sortez un livre qui s'appelle L'éclaircie. N'aurait-il pas été plus judicieux de le sortir au printemps? Voilà. Donc, je crois qu'on revient au sujet principal. Est-ce qu'on avance par rapport au...
Non, on n'avance pas. Non, on est toujours en communication, mais pour l'instant, on n'a rien.
Peut-être vous pourriez lui dire de faire un effort.
Bah, fais un effort, Patrick.
Non, pas Patrick, Philippe.
Philippe, si vous pouviez faire un effort, vraiment, de vous concentrer encore plus fort. Si vous...
Ah, je ne vois que cette personne.
Merci beaucoup.
Avec qui je suis en communication directe, quelque part... dans des montagnes.
On le sent, on le sent.
D'accord.
Vas-y, alors, Patrick, cherche.
Donc peut-être, en attendant de clarifier la situation.
C'est très haut.
Ah, oui. En attendant de clarifier la situation, on a Mathieu Pillard ici qui a préparé quelque chose.
Oui, Paris, donc... pas de mer.
Voilà. S'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. arrêtez. Monsieur Philippe Soler, pour des raisons de sécurité,
alors,
arrêtez.
Est-ce que c'est plus clair que tout à l'heure ou...
Non, pour l'instant, non.
Ça y est, il y est.
Ça a l'air d'être... Je crois qu'il y a quelque chose avec le Tibet, mais je suis pas sûr. Mais... D'accord. Alors, peut-être... Donc, Félix, Félix.
Félix.
Félix. Félix. Félix.
Félix.
Félix. Félix.
Félix.
Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix. Félix.
Dalai Lama, j'aime tant Dalai Lama. Très bien, merci. Alors,
est-ce que c'est... Non, monsieur, alors non, on sait bien que monsieur Philippe Solaire, vous aimez bien déconner aussi, tous que vous êtes un histrion. Enfin, là, vous pourriez rentrer un peu dans le jeu, parce que là, vous arrêtez pas de nous emmerder pas. Depuis qu'on est arrivé. Alors, non, attendez. Donc, est-ce que c'était bel et bien à ça que vous pensiez, Félix Satanus Novus?
C'est dommage que les gens qui nous écoutent ne voient pas. Le personnage qui palpe en ce moment le cerveau d'une façon très énergique. Et parce que c'est un sosie, d'une certaine façon, d'Antonin Artaud.
Donc, je croyais que vous alliez dire un sosie comme
un très, très, très grand.
Il faut le prendre comme un compliment.
Alors, qui, en effet, avait tendance à faire...
Voilà, alors par contre, juste pour finir la chronique, parce que là maintenant on est bien embêté, puisque vous avez tout fait.
Oui, parce que
l'air.
Bientôt c'est Philippe Bertrand. Hein.
Donc peut-être que. Est-ce que vous... Arrête, Patrick. Arrête maintenant, ça suffit. Mais arrête, Ricardo, s'il te plaît, interviens, s'il te plaît.
S'il vous plaît.
Non. Bon.
Félix Satanus Novus, Félix Satanus Novus, Félix Satanus Novus. Philippe Solaire.
Bravo.
C'est juste qu'on a, ça nous paraissait judicieux de vous dire, faire dire la bonne année en latin, mais puisque vous êtes parti dans les monts tibétains et tout ça, visiblement, vous ne nous avez pas aidé. Non. Mais quand même, merci. Et,
c'était bonne année en latin.
Bonne année en latin. Félix, c'est un
Benedicat vos omnipotens Deus.
Mais c'est vraiment un
histrion,
hein.
Faut...
On n'arrête plus. Moi, je m'attendais à quelqu'un.
Merci,
sérieux.
Les chiches capons.
Spermatous.
Je suis pas. Et revenez quand vous voulez, monsieur le médium. Hein. Moi, j'adore cette idée que vous puissiez lire dans la tête de nos invités. Ça, c'est pas
avec
mal.
Plaisir. Merci beaucoup.
Les chiches capons qui sont en tournée le 13 janvier à Dieppe. Le 14 janvier à Grand-Couronne. Le 17 janvier à Soissons. Le 27 janvier au Sable d'Olonne. Et c'était pas prévu, mais alors ils seront le 11 janvier en Suisse. Philippe Solaire, vous voulez lire dans quelle ville ils seront? Regardez cet écrit-là, ils seront dans la ville de...
Ils vont être.
Voilà.
Évidemment, à Gland.
Voilà, dans la ville de Gland en Suisse, le 11 janvier.
Oui.
Voilà,
c'était... À Dieppe.
C'était écrit pour vous,
Nicolas. Grand Couronne et à Soissons.
Voilà, à Gland.
Et au Sable d'Olonne, c'est pas loin de chez nous, n'est-ce pas, cher monsieur?
Allez, on écoute maintenant.
On voit la côte depuis chez nous.
Philippe Solaire, un peu de Mozart, avec une jeune soprano d'origine roumaine, vous la connaissez sans doute, Théodora Georgiou, est une révélation. Elle a été révélée par le prestigieux concours Reine Elisabeth, où elle a été remarquée notamment par son rôle de la Reine de la Nuit.
Oh!
On dit d'elle qu'elle a une voix non seulement cristalline, mais également une agilité vocale absolument stupéfiante. Mmh. Elle vient de sortir un premier album où on retrouve à la fois Bach et Mozart. Il paraît que c'est un véritable régal. Théodora Georgiou est avec nous aujourd'hui aux Affranchis. Bonjour. Elle va nous interpréter l'air de Susanna, un extrait des Noces de Figaro. Elle est accompagnée par Masakatsu Nakano au piano. C'est à vous, Théodora Georgiou.
Thank you.
Je vous rappelle donc qu'elle vient de sortir un premier album qui est un régal, Bach Mozart, sous la direction de Christophe Rousset. Théodora Georgiou, aucun lien de parenté avec Angela Georgiou, vous la connaissiez?
Non.
Quelle voix, quelle oui, voix. Hein. Et puis Susanna, les noces de Figaro, je suis sûre que ça devait... Premier ministre, vous avez donc la capacité, hein, comme ça, comme vous avez l'air d'être plein d'entrain et plein d'idées, vous avez la possibilité de réformer la France. On va démarrer peut-être par quelques questions de ministre. Laurent Bachet, vous aviez une question à poser à Philippe Solers, à notre
Philippe
premier
Solers,
ministre.
Que reste-t-il de vos engagements des années 60? Est-ce que vous pourriez encore descendre dans la rue? Est-ce que vous pourriez encore soutenir des positions maoïstes? Que reste-t-il de tout ça?
Est-ce que vous êtes un premier ministre indigné, puisque c'était la mode en 2011?
Il faut aller vite là. Oui. Non, je rétablis la monarchie tout de suite.
Ah, enfin, j'en étais sûr.
Un peu comme Thierry Ardisson.
Donc,
c'est
nouveau. Ça me prend comme ça.
Il n'y a que le 18e qui compte. Hein,
oui, absolument. Ouais. Je rétablis le royaume, j'abolis la nation. Merci.
Oui. Ça nous laisse quoi?
Merci de vos encouragements. Voilà. Donc, c'est clair, c'est net. Et voilà,
lecture obligatoire pour tout le monde.
Non, on a la liberté. Voilà. Mais non, il y a une chose.
Non, mais cette date qui a été si importante pour vous, 1968.
Mais écoutez, jamais je n'aurais cru pouvoir voir de mon vivant la monnaie chinoise devenue, comme vous savez, mondiale, le yuan et le yen entretenant désormais les meilleures relations indépendamment des cotations, etc. Vous connaissez les billets du yuan? Vous ne le voyez pas.
Je ne le visualise pas.
Et vous assurez, il est très joli, il est en couleur. Et vous avez là le visage assez jeune, éblouissant de santé, de Mao Tse-tung.
Votre
idole
de jeunesse.
Alors si je vous dis, il n'y a pas de billet de banque à l'effigie de Staline, il n'y en a pas à l'effigie d'Hitler, il n'y en a pas à l'effigie de Mussolini, il n'y en a pas à l'effigie de Franco, il n'y en a pas non plus à l'effigie de Pétain. Eh bien, le seul criminel qui soit encore sur un billet de banque, comme quoi la monnaie, c'est fort, hein, voilà, c'est Mao.
C'est vrai.
Et donc, là, lisez le livre d'Anne Wiazemski qui raconte cette histoire avec Godard, la chinoise, etc. Il y a eu beaucoup de jeux dans toute cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma jeunesse. Renier sa jeunesse, c'est pitoyable.
Je l'affirme. On enchaîne avec Guillemette, une autre question de ministre.
Oui, parce que voilà, Monsieur le Premier ministre, je pense que vos ministres sont désespérément cyniques. Il y en a marre, ce cynisme comme ça, cette médiocrité ambiante et cynique. Donc il faut les forcer à faire des stages pour les laver de tout ça. Alors je vous propose trois possibilités. Obligation de s'asseoir seul sous un arbre régulièrement.
Comme dans le livre.
Voilà.
Oui, et sans transistor.
Oui. Ah, ils pourront pas écouter les affranchis, dommage. 3 semaines sans dire un mot. Vous savez, comme quand vous avez réussi à ne pas aller à la guerre d'Algérie.
Exactement.
Vous faisant mine d'être schizophrène.
Vous savez, c'est très difficile parce qu'on finit.
Surtout
par...
pour vous, 3 semaines sans dire un mot.
Pas seulement sans dire un mot, en ne mangeant plus. Je suis sorti un peu spécial.
Ah, vous avez fait une sorte de.
Je suis
de
réformé,
la faim.
Numéro 2, sans pension pour terrain schizoïde aigu.
Vous en tirez bien.
Oui, parce que Malraux m'a fait libérer au moment où j'étais en train de... Ouais.
De passer de l'autre côté.
C'est une expérience.
Ouais. Et autrement, une autre possibilité, lire tout Cioran, à petite dose, hein, évidemment. Oui. Vous croyez que ça leur ferait du bien?
C'est pas sûr, parce que ça les... c'est vite fait d'ailleurs de lire tout Cioran.
C'est plus vite fait que de vous lire, vous.
Oui. Ben, Proust, ça serait quand même mieux, mais enfin, il s'ennuierait, non? Voilà, oui. Après, Cioran, quel est le plus beau mot de Cioran? On n'atteint pas comme ça la frivolité, c'est un privilège et un art. Voilà ce qu'a dit Cioran. C'est rarement une citation de Cioran, rarement citée. C'était quelqu'un de très drôle, je l'ai connu un peu, et on riait comme des fous. Et il a dit une chose très profonde, à savoir que Jean-Sébastien Bach lui ferait croire en Dieu. Pour un type qui était à ce point désespéré, qui songeait à se suicider 10 ou 15 fois par jour, il ne l'a pas fait. Il a eu une fin de vie absolument terrible.
Dans la misère, non? Il allait manger.
À savoir que Jean-Sébastien Bach lui ferait croire en Dieu. Pour un type qui était à ce point désespéré, qui songeait à se suicider 10 ou 15 fois par jour, il ne l'a pas fait. Il a eu une fin de vie absolument terrible.
Dans la misère, non? Il allait manger au restaurant universitaire du 5e.
Alzheimer, le bouquet de violettes, oui. On lui offre un bouquet de violettes et il le porte, il le mange. Ah. Comme quoi le désespoir poussé trop loin peut faire prendre des violettes pour une glace.
Une dernière question de ministre. Marc Lambron, ça vous fait plaisir,
oui,
notre ministre?
Oui, c'est une question politique. Si je vous ai bien entendu, Philippe Solers, vous avez déclaré qu'il émanait de Martine Aubry
une forme d'érotisme. Est-ce que cette affirmation peut être précisée?
Elle est difficilement précisable dans la mesure où il faudrait rentrer dans mes propres réactions endocriniennes. Et là, je crains que ce ne soit pas vraiment faisable. Mais c'est vrai
encore une de vos provocations.
Je pense que c'est un pays qui va mal parce que il n'y a pas de femme présidente de la République française. C'est interdit par la loi Salique, je ne vous apprends rien. Vous avez écrit un très joli livre il y a déjà quelques temps, sur 5 ans, sur Ségolène Royal, qui semblait venir régler cette vieille histoire. Pas de femme présidente de la République française, c'est impossible. Je trouve que dans le vote récent des socialistes, Martine Aubry aurait été bienvenue plutôt que Hollande, qui est beaucoup moins sexy qu'elle, d'une certaine façon. Par sexy, j'entends caractère qui... Vous savez, elle est basque, tout de même. Si vous avez connu, comme moi, dans mon enfance, des basques, vous lui dites qu'elle est basque, elle réagit immédiatement. Les basques ont quelque chose d'érotique. Je vous les recommande.
Les femmes basques ont quelque chose.
Les femmes basques, oui. Les basques, vraiment basques.
Il reste Eva Joly comme candidate.
Oui. Oui, mais elle est norvégienne.
Et alors ?
Et ça change tout.
C'est moins érotique.
Il y a dans toutes les norvégiennes quelque chose de pas sexy.
C'est trop loin de l'Espagne, la Norvège.
Il faudrait qu'elle apprenne le basque pour changer d'accent, voilà. Parce que c'est compliqué.
Moi, je pense que Philippe Solers, au gouvernement, également notre invité. Salut à tous, place au carnet de campagne. Philippe Bertrand, c'est à vous.
Merci Isabelle.
Bonjour Philippe.